Radio Okapi.
Moitié, moitié.
De vous retrouver pour parler de la faible participation des femmes dans le mécanisme de suivi et initiative de paix. Pour cela,
Parité Famille reçoit Madame Annie Bambé. Elle a plusieurs casquettes. Parmi ces casquettes, défenseur de droits humains, elle est également présidente du Forum pour les droits des jeunes et des enfants, FOJEC en sigle. Elle est aussi la coordonnatrice de la coalition Beijing 25+. Et également dans ses casquettes, elle est chargée du plaidoyer au sein du mouvement Rien sans les femmes. Mais justement, nous allons la recevoir dans le cadre de ce mouvement. Bonjour, Madame Annie Bambé.
Bonjour, Madame la journaliste.
Le mouvement Rien sans les femmes a mené une étude sur la participation des femmes dans les mécanismes de suivi et initiatives de paix. Alors, pouvez-vous nous en parler?
Oui, merci beaucoup de l'opportunité que vous nous offrez pour présenter l'étude qu'a mené Rien sans les femmes dans les 8 provinces qui se rapporte sur 11 points de coordination, notamment Kinshasa, Kasaï Oriental, Uvira, Beni, Tchopo, Kisangani, on a Lualaba, dans le Lualaba, on a fait à Likasi, il y a Okatanga, à Lubumbashi, on a Kalemi, dans les Tanganyika. Et dans cette étude, Rien sans les femmes a récolté les données, est allé sur terrain, et de ces résultats, il s'avère que 26% de femmes seulement sont intégrées, sont prises en compte dans les mécanismes de paix, mais pas dans le leadership des mécanismes de paix. Sont associés, mais à un certain niveau. C'est avec ces résultats faibles, Rien sans les femmes a produit, a initié une politique nationale d'intégration de la femme et la jeune femme dans les mécanismes et initiatives de paix en République démocratique du Congo.
Mais la résolution 1325, 21 ans après, on parle encore de la faible participation des femmes dans les mécanismes de suivi et les initiatives de paix, alors que notre pays, la République démocratique du Congo, a adhéré à cette résolution.
Oui, la République démocratique du Congo est partie prenante de la résolution 1325. Et justement, il y a toujours des couacs, il y a toujours des faiblesses qui font que cette résolution n'est pas vraiment mise en application. Au-delà du plan d'action de la première et de la deuxième génération qui ont été adoptés en RDC et que oui. Nous saluons, mais il y a toujours quelque chose qui freine, qui bloque à ce que les femmes soient intégrées dans les initiatives de paix. C'est justement à cause de cette faiblesse que Rien sans les femmes, le mouvement Rien sans les femmes, s'est mis sur terrain pour accompagner le gouvernement en vue de lui produire, de lui proposer une politique qui devait et que le gouvernement devait s'approprier pour que les solutions soient trouvées à l'intégration des femmes et des filles dans les mécanismes et initiatives de paix.
Ouais, nous allons parler de cette politique que le mouvement Rien sans les femmes va proposer au gouvernement. Mais j'aimerais d'abord, est-ce que le mouvement Rien sans les femmes a mené quand même une étude pour savoir d'abord pourquoi cette faible participation des femmes? Peut-être qu'il y a un problème chez la femme.
Oui, vous savez, Madame Nicole, habituellement, on jette la faute sur la femme et oubliant que la femme, elle doit être la bénéficiaire de ce mécanisme. Et ce n'est pas elle la promotrice des mécanismes. C'est pas elle qui doit concevoir les mécanismes. Les mécanismes sont déjà conçus par les législations, par les instruments juridiques internationaux, régionaux, sous-régionaux et même au niveau interne. Mais la femme vient réclamer, c'est une question des droits, elle vient réclamer ce qui est déjà coulé dans le texte. Elle vient réclamer que cela soit mis en application pour qu'elle bénéficie totalement qu'elle jouisse totalement de ce droit. Alors, en ce qui concerne cette politique, nous avons constaté, comme vous voulez parler du côté femme, nous avons constaté que c'est dans l'opinion. Il y a les pesanteurs socioculturels qui empêchent que la femme accède, que la femme participe dans des réunions de grande importance où des décisions doivent se prendre. Et là, vous entendez, non, c'est une affaire d'homme. Tout à l'heure, j'étais en train de venir, j'avais transporté deux députés honoraires. Et ils m'ont suivi dans une des chaînes parler de cette politique. Alors, ils m'attaquent pour me dire, voilà, madame, et vous savez que dans notre culture, la femme ne peut pas aller s'asseoir à des heures tardives, dans des réunions, dans des assises où les hommes...
Justement, voilà. On reproche ça à la femme, que la femme ne reste pas trop longtemps, là où il y a des réunions, ne reste pas tard, elle doit rentrer parce qu'elle est mère, parce qu'elle est épouse.
Mais justement, on veut coller, et je vous dis que ceux qui étaient en train de le dire, ce sont des députés honorés, ce sont des personnalités qui sont censées appuyer la promotion de la femme parce qu'ils ont participé à la législation dans notre pays. Mais si à leur niveau, elles-mêmes ne comprennent pas qu'il faut mettre en place des mécanismes qui doivent faciliter la femme pour transcender...
Madame, on ne facilitera jamais la femme, ça ne sera pas un cadeau.
Transcender les pesanteurs socioculturels. Parce que tout ce que vous êtes en train de dire, que la femme doit rester à la maison pour éduquer les enfants et doit s'occuper
non,
de son mari.
Non, je n'ai pas dit
ça, madame. Non, vous portez la voix des autres.
Non, j'ai dit ceci. J'ai dit, c'est un obstacle pour l'avancement de la femme dans le...
Ah non, je ne peux
que...
pas. Accepter cela.
Non, mais madame, c'est des obstacles naturels.
Non, il n'y a pas d'obstacle naturel. Par exemple, le fait de porter une grossesse par une femme.
À 9 mois de grossesse, vous allez aller signer des accords à Nairobi.
Exactement, exactement.
Où les accords doivent vous attendre jusqu'à ce que
La femme est là 3 mois de congé de maternité. La grossesse n'est pas une maladie. Il faudra que l'opinion enlève de sa tête que la grossesse est une maladie. Pas du tout. À moins que ça soit une grossesse à problème. Mais la grossesse, c'est naturel pour la femme. Et la femme doit même être fière de porter la grossesse et d'aller dans des réunions avec sa gestation. Ce n'est pas une honte ou bien un frein à ce que la femme prenne part dans des instances de prise de décision. Ça, c'est un prétexte. Un prétexte de ceux qui veulent pas que la femme participe. Si au moment d'aller, comme on a les assises qui se sont tenues à Nairobi,
oui, on n'a pas vu les femmes.
Qui a établi la liste? Ce ne sont pas ces hommes-là qui sont venus demander à celui qui a établi la liste, mettez-moi sur la liste. Mais non.
Mais déjà, si dans le mécanisme de suivi des accords de Lusaka. Hein?
Oui, justement, pourquoi il n'y en a pas?
Il n'y a pas de femmes.
Oui, mais pourquoi il n'y en a pas? Parce que justement, ceux qui établissent les listes ne prennent pas les femmes. Alors que les femmes, si aujourd'hui nous avons la résolution 1325, que tous les États du monde ont dû, auxquels ils ont adhéré massivement. Mais vous savez, je vais vous révéler quelque chose. C'est la femme congolaise qui a été à la base de l'adoption de la résolution 1325. C'est elle qui a dit au moment où on devait aller aux négociations de Lusaka et consorts que non, on doit intégrer les femmes dans les mécanismes de paix. Trop, c'est trop. Ce sont les hommes qui prennent les armes. Mais lorsqu'il faut trouver des solutions, on ne voit pas les femmes à des tables de négociation.
Bon, peut-être que la femme ne peut pas aller parler avec des chefs rebelles.
Mais comment ça, elle ne peut pas parler avec des chefs rebelles? Mais la femme a des atouts. Le fait même que la femme ne soit pas chef de guerre, ne soit pas chef des rebelles, c'est un atout qui doit être capitalisé. C'est-à-dire que la femme est une personne, est une personnalité de paix. qui doit être mise à profit dans la recherche, dans la solution sur la paix. La femme est une personne avec qui il faut compter parce que la femme, elle est éprise de paix. Comme la femme, vous l'avez dit ici, non, elle a tendance à s'occuper de ses enfants, à s'occuper de son mari. Justement, elle a cette capacité-là de protéger la famille. C'est pourquoi il faut capitaliser cela et l'associer dans la résolution de conflits.
Ça, c'est peut-être un problème. C'est pas un problème culturel, ça, parce qu'on a vu même dans nos sociétés traditionnelles, la femme joue un très grand rôle même dans des grandes décisions. Mais c'était dans l'ombre. Les hommes venaient demander conseil aux femmes, mais la voix était portée par les hommes, pas par les femmes. Les femmes, c'était des héros dans l'ombre. Peut-être que ça continue jusqu'aujourd'hui.
Oui, justement, madame. Mais à l'époque, on n'avait pas un cadre légal sur ça. C'est tout à fait normal, ça pouvait se passer de cette manière-là. Mais aujourd'hui que les États ont compris qu'il faut associer les femmes, qu'ils ont élaboré des instruments juridiques, ils ont élaboré tout ça. Mais madame, je pense qu'il faut le respecter parce que c'est ça même... Le plaidoyer de la femme. La femme n'a pas inventé les textes. Elle n'a pas inventé les textes. Si vous vous rappelez, vous avez pu constater, lorsqu'on part signer, adhérer au traité, ce ne sont pas habituellement les femmes qui adhèrent. Les chefs d'État femmes, on en a combien? Les premiers ministres femmes, on en a combien dans le monde? Les ministres des Affaires étrangères femmes, on en a combien? Les ministres des plans, il y en a combien de femmes? Mais ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui participent, ce sont les hommes qui signent, qui prennent part à ce traité. Mais maintenant, nous venons mener le plaidoyer. Nous venons réclamer que ça soit juste appliqué, ça soit juste mis en application. C'est cela. Les textes sont là, les textes sont bons, mais appliquons. Appliquons, parce que des fois on trouve que les femmes comme nous menons le combat. Non, c'est pour elles, parce qu'elle veut être là. Madame, nous menons le combat.
Mais une certaine
opinion.
Le combat
pour le développement durable. C'est pour que les générations futures, les générations qui sont en train de venir, participent aisément à ces mécanismes.
Mais madame, il y a une opinion qui pense que les femmes, lorsqu'elles vont dans des grandes assises internationales, elles vont plutôt pour faire pour faire leur shopping, qu'elles assistent pas aux réunions, et quand elles arrivent là, elles vont faire du tourisme.
Je suis vraiment désolée qu'on pense toujours que la femme, elle est dans la distraction. Madame, et je sais de quoi vous parlez. On parle de lorsqu'il y a la commission qui statue sur les statuts de la femme à New York, hein, sur la condition de la femme à New York. Mais oui, quand on arrive à une ville et lorsque vous êtes... Parce qu'on s'inscrit. Ce n'est pas vous êtes là, vous devez participer à toutes les sessions. Mais non, c'est pas comme ça se passe. Vous vous êtes inscrit à des événements parallèles. Vous avez votre planning. Vous avez votre planning pendant la durée de la session, pendant les 14 jours de la session. Vous participez peut-être pendant 5 jours de la session parce que vous vous êtes inscrite. Et les autres jours, vous voulez faire du shopping, vous faites du shopping. Où est le problème? Moi, je ne vois pas pourquoi il y a des gens qui veulent minimiser le fait que les femmes peuvent aller faire du shopping pendant leur temps libre.
Alors, madame, est-ce que au niveau du mouvement En réinsant les femmes, vous avez déjà essayé de réfléchir sur les faiblesses et les forces de la participation, je dirais, politique, et en tirer des conclusions pour peut-être changer les choses?
Mais oui, une des solutions, c'est cette politique que nous venons d'initier. Et de manière à ce que le gouvernement se l'approprie pour qu'il y ait une politique nationale sur l'intégration des femmes et des jeunes filles dans les mécanismes et initiatives de paix en République démocratique du Congo.
Bon, vous pouvez nous donner les grandes lignes.
Nous avons pu constater, je l'ai dit déjà, il y a un problème de pesanteur socioculturelle où on vient de débattre sur ça, où notre culture n'accepte pas que la femme siège là où les hommes siègent, que la femme n'a pas droit à prendre la décision. La femme ne peut pas parler devant les hommes. La femme doit rester à la cuisine, doit rester dans son ménage, ce qui n'est pas mal. Mais c'est pas toutes les femmes qui doivent rester. Et quand la femme s'engage dans la politique, s'engage dans la vie publique, la femme trouve toujours un palliatif et trouve toujours une compensation pour la maison. C'est la raison pour laquelle il y a des employés de maison. Il y a des employés de maison que la femme, elle coordonne à distance. Elle est là, elle coordonne à distance et dans sa maison. Et presque sa présence n'est pas observée parce que si il faut faire la cuisine, il y a des choses qu'elle fait, il y a des choses qui traînent qu'elle ne peut pas faire, qu'elle confie à un employé ou une employée de maison. Ça, ce n'est plus un problème. En ce 21e siècle, ce n'est plus un problème. Il y a aussi la faible, je l'ai dit déjà, la faible appropriation de ce mécanisme, même par les femmes elles-mêmes. Oui, il y a ce problème. Faible appropriation de ce mécanisme par ceux qui sont appelés même à le mettre en œuvre. Et le cas patent, c'est celui de Nairobi, où on a vu que l'Union africaine a organisé ici au pays, a organisé au mois de février, il a organisé une formation. Il a organisé une formation sur les médiatrices de paix. Il y a eu des femmes de haute facture qui sont venues de l'Afrique, qui sont venues poursuivre cette formation ici de l'Union africaine. Notamment, nous y avons pris aussi part. Mais aujourd'hui, qu'il y a ce cas, surtout pour la RDC, et on n'utilise pas les femmes de la RDC qui ont été formées par l'Union africaine au moment où le président de la République était déjà fait mandat comme président en exercice de l'Union africaine. C'était sa dernière activité avec les femmes au niveau de l'Union africaine. Donc, il y a ce problème qui se pose un peu dans d'autres pays. Également, il y a le texte pour la participation politique de la femme. Vous savez qu'actuellement, il y a la loi électorale qui est sous examen à l'Assemblée nationale.
Effectivement.
Il y a l'article 14 qui fâche.
Oui.
Qui n'accorde pas.
Oui, essaie un peu de nous expliquer cet article 14 dont on parle souvent.
Oui, l'article 14, c'est dans la Constitution qui consacre la parité, le principe de la parité homme-femme et qui projette que toutes les autres lois devraient se conformer à l'article. Parce que dans une Constitution, tous les articles ont la même portée. Il n'y a pas des grands articles et des petits articles. Il n'y a pas des articles de grande importance et des articles de petite importance. Mais on a remarqué que par rapport à l'article 14 qui consacre la parité homme-femme, que cet article n'est pas vraiment mis en œuvre. N'est pas mis en œuvre. Vous avez la loi électorale dans son article 13. Il énonce le principe de la représentation égalitaire homme-femme sur les listes électorales. Mais vous avez l'alinéa 3 qui vient contredire, qui vient balayer du revers de la main ce qui est déjà énoncé dans l'alinéa 2.
Et l'alinéa dit quoi?
Et l'alinéa, il n'oblige pas les partis politiques a justement présenté les listes égalitaires hommes-femmes. Parce qu'il n'y a pas une contrainte. Il n'y a pas une contrainte parce que dans l'article, il y a même incise qui stipule que au cas où ce n'est pas les listes ne sont pas présentées paritairement, ça ne va pas nécessiter un motif de rejet de la liste. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a stipulé dedans. Donc, on n'a rien donné. Mmh. On n'a rien consacré.
Oui.
Donc, les partis politiques peuvent mettre les femmes comme ils ne peuvent pas mettre les femmes. Et maintenant qu'avec le système de regroupement, avec le système de seuil, où les partis politiques sont obligés de se regrouper, et les listes, les places, les sièges, les places sur les listes électorales deviennent encore minimes. Et là, ce sont les chefs des partis, ce sont ceux qui sont dans les directoires qui se tapent la part des lions. Et on a vu aux élections de 2018 où les femmes, la plupart des femmes n'ont pas été retenues sur les listes électorales. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de femmes. Les femmes étaient là, mais il y avait comme il y avait eu un regroupement des partis politiques et il y avait peu de places. Même pas peu de place, c'était ça le nombre de sièges. Mais les hommes ont trouvé que il n'y a que eux qui pouvaient être sur les listes, pas les femmes.
Alors qu'est-ce que vous proposez?
Mais c'est justement, nous continuons le débat, nous continuons le plaidoyer pour que cet alinéa 3 de l'article 13 de la loi électorale oblige les partis politiques à placer équitablement les candidatures féminines et les candidatures masculines. Parce que l'électeur, l'électrice qui vient dans le bureau de vote, s'il ne trouve pas une candidature féminine sur la liste électorale, comment voulez-vous que la personne vote pour la femme? Parce qu'on entend dire l'ennemi de la femme, c'est la femme. Les femmes n'aiment pas les femmes. C'est ce qui est véhiculé. Et certaines femmes tombent là-dedans. Alors que nous savons très bien que beaucoup des problèmes qui sont dans ce pays, ce sont les hommes qui ne s'entendent pas. Ils s'entendent pas, mais on n'a jamais entendu dire l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. La plupart, la gestion au pays, ce sont des hommes. On n'a jamais eu une femme premier ministre dans ce pays. On n'a jamais eu une femme présidente de la République. Jamais une femme présidente de l'Assemblée, ni présidente du Sénat, ni présidente de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation, ni présidente de la CENI, ni de la Commission nationale des droits de l'homme, du Conseil économique et social, de toutes les institutions. On n'a jamais eu une femme à la tête d'une institution. On avait une seule femme à l'époque à l'Assemblée nationale, mais c'était pour une courte durée.
À vous entendre parler, madame, on a l'impression, j'ai l'impression que pour vous, ce sont les hommes qui mettent des peaux de banane pour que les femmes puissent accéder à des postes de responsabilité, puissent postuler, puissent participer aux grandes messes, alors que vous ne faites pas plutôt un examen des consciences où les femmes, entre femmes, pour, comme je l'ai dit, pour connaître un peu quelles sont les faiblesses qui font que qui vous empêchent de briser ce verre.
Mais madame, je ne peux pas aller sur votre angle. Parce que là, vous voulez nous disperser comme
Comment ça?
Les comètes mortels pensent que non, si la femme n'est pas dans les instants de prise de décision, c'est parce que c'est à cause de la femme. Non, madame, c'est pas à cause de la femme. C'est à cause de notre politique.
Ah, donc la femme, elle...
C'est notre politique.
Elle est zéro faute, quoi.
C'est notre politique. Je viens de vous dire que en 2018, les femmes étaient là. Moi, j'ai vu même des femmes secrétaire général des partis politiques qui ont été débarqués parce que sur la liste, on devait composer avec un autre parti politique. Alors, le faible maillon de la chaîne, c'était qui? C'était la femme. Une femme secrétaire générale d'un parti politique a été débarquée. Vous comprenez ça? Et pourquoi ne pouvait pas débarquer l'homme? Pourquoi seulement la femme qui doit en pâtir? Les textes, c'est pourquoi nous avons déjà compris que si les textes sont mis en œuvre, les femmes vont apparaître dans les instants de prise de décision. Et il a été dit, même le secrétaire général des Nations Unies, que dans des institutions où la gouvernance est sous le leadership des femmes, ce sont des institutions qui sont stables, ce sont des institutions qui produisent...
Peut-être sous d'autres cieux.
Mais madame, qu'est-ce qui empêche à la femme congolaise? Parce que je venais de vous dire que si on a eu la résolution 1325, c'est grâce à la femme congolaise qui a pensé la résolution 1325. C'est-à-dire que nous avons des femmes de haute fortune dans ces pays. Nous avons des femmes. Quand vous allez dans un autre pays, vous êtes oratrice dans un autre pays, vous êtes plébiscitée par les autres femmes. Reconnaissent en vous beaucoup de mérites. Mais dans notre propre pays, les femmes ne sont pas reconnues. Les mérites des femmes ne sont pas reconnus. Vous avez déjà vu dans ce pays où, depuis des lustres, on décore les hommes. Vous avez déjà vu combien de femmes décorées?
Bon, il y en a quelques-unes.
Hein? Mais combien? Quelques-unes, pourquoi? Il n'y en a pas?
Parce qu'elles ne sont pas, elles sont pas nombreuses non plus.
Mais comment ça, elles ne sont pas nombreuses? Est-ce qu'on a fait le monitoring? Est-ce qu'on les a identifiées? Si aujourd'hui nous avons l'article 14 dans la Constitution, il y a des femmes de ce pays qui se sont mises debout pour qu'on inscrive l'article 14 dans la Constitution. Il y a des femmes, ces femmes, il faut les décorer.
il faut décorer ces femmes. C'est pas, nous avons une constitution qui est plébiscitée dans le monde parce qu'il a intégré la parité homme-femme dans en son sein. Mais au sein de notre pays, qu'est-ce qu'on fait de la femme? On veut seulement reléguer la femme. Non, elle, c'est la cuisine. C'est pas mal. Moi, je suis une bonne cuisinière. J'aime la cuisine. Je prépare très bien, très bien. Vous essayerez un jour. Je prépare très bien. Mais sur le plan des compétences pour la gestion de la science publique, je suis là et je suis capable. On fait les deux. On fait les tout ensemble. Mm-hmm. Mais lorsqu'on veut écarter la femme, on lui colle que voilà, elle aura des gestations, elle aura des grossesses, elle aura des enfants à allaiter, elle aura. Mais non. Mais non.
Mais c'est pour ça qu'on demande la prise en compte du genre.
Et pourquoi? Voilà. Et pourquoi? Pour s'occuper de l'enfant, pourquoi c'est seulement la femme qui doit s'en occuper seule? Et le papa, lui, il s'occupe pas de son enfant? Oui, mais voilà des questions qu'il faut poser. Qui a dit que c'est seulement le bébé, c'est seulement la mère qui doit s'en occuper? Quand elle est au travail, le bébé est resté. Est-ce que c'est elle qui s'en occupe? C'est-à-dire que le papa peut aussi s'en occuper. C'est pourquoi prochainement, nous, on demandera prochainement qu'on ait aussi des congés de paternité. Et on va commencer à choisir qui restera avec le bébé à la maison.
Mais sous d'autres cieux, il y a déjà équilibre. Le congé de paternité à un mois.
Voilà. Est-ce que c'est ça, on veut consolider la famille. Parce qu'on ne peut pas dire que la République démocratique du Congo, c'est une nation qui a comme socle la famille. Mais en même temps, on ne veut pas réunir la famille. On ne veut pas la consolider. Il faudra que dans l'éducation des enfants, que le commun des mortels sache que c'est une question qui concerne et la femme, et l'homme, et le mari, et l'épouse. C'est pas une question de la femme seule, l'éducation de l'enfant.
Alors, pour chuter, madame, qu'est-ce que vous proposez aux décideurs?
Voilà. Nous, en ce qui concerne cette politique, nous voulons que le gouvernement se l'approprie. Parce que c'est le gouvernement qui est habilité à voter, à adopter les politiques nationales. Nous n'avons fait qu'un travail pour accompagner le gouvernement, qui se l'approprie, qui l'adopte, qui la fasse voter au Conseil des ministres, qui la publie de manière à ce que on arrête un peu avec cette discrimination à l'égard de la femme et de la jeune femme pour son intégration dans les mécanismes et initiatives de paix.
Merci beaucoup, madame.
À notre invitée, Madame Annie Bambé, qui est la coordonnatrice du mouvement Rien sans les femmes. Et merci à vous, chers auditeurs de Radio Capi. C'est par ici que nous allons nous quitter et nous allons nous retrouver prochainement pour un autre numéro de Parité et Famille. Portez-vous bien.